Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour les frères et sœurs d'Aix-en-Provence. C'est une joie de vous retrouver. La dernière fois que nous étions à Cavaillon, c'était l'été dernier. Et donc, c'est une grande joie pour nous d'être à nouveau parmi vous. Alors, selon mon habitude, j'ai préparé des questions. Alors, je rappelle, surtout pour ceux qui sont... qui n'ont pas l'habitude, que les questions ne sont pas une obligation, que vous pouvez les conserver pour pendant le message ou après le message, à vous de voir. C'est un moyen parfois de revoir le texte de la parole de Dieu après la prédication et se dire « Ah oui, qu'est-ce que ce texte ? Comment est-ce que Dieu nous parle ?» Alors, à vous de les utiliser comme vous l'entendez. Alors, c'est le psaume... que je vous propose aujourd'hui, c'est le psaume 116. 116. Un tout petit peu après celui que Baptiste nous a lu tout à l'heure. Alors, est-ce que vous saviez que certains des psaumes sont appelés, notamment par les Juifs, mais on a repris un petit peu, les psaumes Hallel. C'est un groupe de psaumes qui soit commence, soit termine par ce mot de louange que nous utilisons si souvent, Alléluia, qui veut dire tout simplement louer Dieu. Et le psaume, alors il y a une bonne dizaine de ces psaumes, un peu plus peut-être, dans l'ensemble du psautier, mais le groupe le plus concentré, c'est le groupe que nous avons devant nous. C'est du psaume 111 jusqu'au psaume 118. Et ce groupe-là est un groupe donc, de psaumes Hallel, loué soit l'Éternel. C'est un groupe très particulier que donc les Juifs fidèles, donc ceux de l'Ancienne Alliance, chantaient toujours ces psaumes-là, lors des grandes fêtes, les trois grandes fêtes du peuple d'Israël, c'est-à-dire Pâques, Pentecôte et la fête des Tabernacles. Et l'intérêt pour nous, c'est que ce groupe de psaumes était chanté lors de la fête de Pâques, au moment de prendre le repas de Pâques. Et on chantait de 111 à 115 avant le repas, et ensuite 116 à 118 après. C'est-à-dire que lorsque, dans Matthieu 26, 30, la parole nous dit que Jésus a chanté les psaumes avec ses disciples après le repas, après avoir pris la coupe, et juste avant d'affronter Gethsémané et ensuite l'arrestation et la croix, eh bien, il venait de chanter ce psaume en premier, après le repas, le psaume 116. Et cela peut nous parler, peut nous aider aussi à comprendre que ce psaume a un sens particulier parmi les psaumes. Alors, pour changer... Aujourd'hui, au lieu de lire l'ensemble du texte, et j'espère que vous l'avez sous les yeux, avant la prédication, je vais largement le citer pendant le message, mais je vais inviter mon épouse à lire le texte entier à la fin, après le message, pour que vous puissiez réfléchir au sens de ce psaume à la fin. Psaume 116. J'aime l'Éternel. Nous l'avons lu, nous l'avons dit, nous allons le chanter à tout à l'heure, j'espère. J'espère aussi que nous l'avons pensé, que nous l'avons cru. Sommes-nous, en disant « J'aime l'Éternel », sommes-nous allés plus loin? Avons-nous, comme le psalmiste ici, donné l'explication à cet amour? Après tout, ce n'est pas un exercice inutile. Car cet exercice-là nous détourne, tourne notre regard de nous-mêmes pour fixer le regard sur le Seigneur et sur notre Dieu. Le psalmiste anonyme de ce psaume 116, lui, il a fait ce pas supplémentaire. Il s'inspirait sans doute du plus grand des psalmistes, David, dans le psaume 18. Quand David dit « J'aime, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Notre psalmiste, cependant, a trouvé une explication différente et complémentaire de son amour pour Dieu. Là où David insiste sur la puissance victorieuse, libératrice, protectrice de l'Éternel, notre psalmiste s'attache d'abord à la tendresse, à la compassion et à la douceur d'un Dieu qui fait un effort particulier, qui s'abaisse afin d'écouter attentivement les paroles, certainement très imparfaites, de son enfant, effrayé, allongé dans la poussière, tremblant devant une mort certaine. Ainsi, par ses toutes premières paroles, notre psalmiste, qui connaissait le même Dieu que nous, il y a plus de 2500 ans, nous donne la réponse. Et oui, il nous donne la réponse que nous devons présenter à celui qui, voulant connaître la raison de notre espérance, selon l'épître de Pierre, la première, nous interroge au sujet de notre religion. Et nous inspirant du psalmiste, nous allons répondre, mon ami, je n'ai pas de religion. J'ai une relation filiale avec un Père tout-puissant qui m'entend toujours quand je lui parle. Que j'aime ce Père. Oui, un frère dans la foi, même s'il a pu connaître que l'ancienne alliance, peut avoir bien des leçons à partager avec nous sur le Dieu que nous servons, lui comme nous. Considérons par exemple, pendant quelques instants, la structure de ce psaume 116. A priori, parmi les plus spontanés de ce merveilleux recueil. Tout en étant très spontané, ce psaume peut se diviser en trois parties, correspondant au chemin de salut pour chaque croyant. Ainsi, le psalmiste ouvre avec une prière angoissée et le cri d'amour qui exprime la certitude de l'exaucement de ce cri, une prière donc provoquée par la prise de conscience de sa véritable situation. Les liens de la mort l'avaient enserré. Pour crier à Dieu et ainsi découvrir son amour, son écoute, il faut tout d'abord reconnaître sa propre misère. Ensuite, à partir du verset 5, sa propre misère ayant été reconnue, sa détresse proclamée, le psalmiste en vient à la confession de sa foi, au témoignage que la délivrance vient de l'Éternel, non pas des efforts de l'homme. De la prosternation, dans l'impuissance devant Dieu, il passe donc à l'adoration. Adoration qui comporte un rappel à la fois du caractère et des hauts faits de l'Éternel. Cette adoration-là nous conduit jusqu'au verset 12, où nous constatons le passage du témoignage quant à la délivrance opérée par l'Éternel à l'action logique du nouveau racheté, c'est-à-dire son offrande, ultimement l'offrande de lui-même. Son offrande à son Dieu rédempteur. De la misère, il passe donc à la délivrance divine, puis à la reconnaissance. Mes chers frères et sœurs, ce sont les trois étapes de la vie chrétienne selon les catéchismes de la Réforme. La misère de l'homme, la délivrance de Dieu, la reconnaissance, une vie de reconnaissance. Gardons-nous donc de négliger ces leçons profondément spirituelles que nous apportent nos ancêtres dans la foi. La prière est ainsi une relation réelle. Pardon. Ce qui est absolument remarquable dans ce psaume, c'est de constater à travers les paroles, ces paroles du psalmiste, la merveilleuse souveraineté de notre Dieu. Nous avons devant nous un chant de reconnaissance à la base, manifestement marqué par les émotions profondes et vives de son auteur. Or, nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. Aussi savons-nous que ce chant, si spontané, si ému, trouve sa source en Dieu lui-même. Dans sa souveraineté, il oriente le cœur et la langue du psalmiste, tout en veillant à ce qu'il nous laisse, par la même occasion, une sorte de résumé doctrinal du parcours de la vie de foi, de la conversion à la sanctification, en passant par la délivrance, que nous, connaissant l'œuvre de Jésus-Christ, appelons la justification, sans oublier, rajouter en plus, le modèle d'une prière de reconnaissance et de consécration, présent également dans ce psaume 116. Modèle de prière de reconnaissance ? Oui. Si nous lisons encore les textes de l'Ancien Testament aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils nous apportent des trésors. Des trésors concernant à la fois notre Dieu, sa création et sa rédemption en Jésus-Christ. Aussi bien que notre adoration et service, bref, notre relation avec lui, des trésors à tous ces sujets, sur tous ces sujets. Le psaume devant nous n'est certes pas le seul modèle de prière d'adoration et de consécration possible. Dieu, nous le savons, est le créateur d'une grande diversité, y compris la diversité parmi les très nombreuses prières de ses fidèles. Néanmoins, ce psaume contient certains éléments que nous ferions bien d'inclure dans nos prières, si nous disions qu'elles honorent Dieu. Et, dans le cas d'une prière en public, qu'elles édifient également les frères et sœurs dans la foi. J'aime l'Éternel. Le psalmiste commence son chant en criant son attachement à son Dieu, sa relation avec lui, une relation qui est manifestement proche, chaleureuse, vivante. Lorsque nous prions, nous ne nous adressons pas à une statue de pierre, à une force impersonnelle, à un Dieu lointain. Nous nous adressons à un Père qui nous aime, qui nous écoute et que nous sommes appelés à aimer. Car il entend ma voix, dit le psalmiste. S'il y a une relation réelle, elle a un fondement réel. Il ne s'agit pas dans cet amour entre Dieu et son enfant des « je t'aime, bon marché » qui sont monnaie courante à notre époque. Le psalmiste a découvert en réalité la grande vérité que nous avons tendance, nous, la Nouvelle Alliance, à associer plutôt avec le Nouveau Testament, avec la première épître de Jean en particulier. Pour nous, dit Jean, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Le psalmiste a découvert la même vérité. Aussi, le psalmiste cherche sa motivation, la motivation de son amour pour Dieu, donc la motivation de sa prière, dans les actes et dans le caractère de Dieu. Dans sa recherche, il obtient des résultats très différents de ceux que connaît Béatrice, héroïne de la célèbre pièce de Shakespeare, j'espère que vous la connaissez, « Beaucoup de bruit pour rien ». Cette dernière, Béatrice, qui entend Bénédicte, son amant, proclamer son amour pour elle et lui demander l'occasion de prouver son amour, charge ce dernier de tuer Claudio, son meilleur ami, pour venger le mal que ce comte a fait à Héro, la cousine de Béatrice. Béatrice reçoit la réponse suivante. « Ah non, pas pour gagner le monde tout entier !» Le psalmiste, lui, est très loin de connaître une telle déception. Le Dieu qu'il aime écoute sa prière. Il est miséricordieux et juste, rempli de compassion. C'est ce que l'Éternel a déclaré lui-même au Sinaï, devant Moïse, Exode 34, versets 6 et 7. « Dieu garde les simples, dit le psalmiste. » Autrement dit, les humbles. Regardez un peu, Proverbe 3, 34. « Dieu garde ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. » Dieu fait du bien à son enfant. C'est le cas de le dire, car il lui épargne la mort. Verset 8. Il lui enlève le chagrin, il l'empêche de tomber. La vie de ses enfants lui est d'une grande valeur, si bien que la mort de ceux qui aiment Dieu lui est précieuse, lui coûte cher. Le psaume est ainsi solide. Il a un vrai contenu. Il est tout sauf des paroles en l'air. Car le psalmiste parle à un Dieu dont il connaît le caractère, un Dieu dont les actes sont concrets et sont rassurants. Cette prière, cette relation réelle, motivée par un Dieu dont le caractère et les actes sont connus et déclarés, cette prière n'est pas encore terminée. Il faut encore, pour que la prière du fidèle soit telle que Dieu le veut, que celui qui prie ait conscience de son propre état, de sa propre situation. Nous avons déjà vu, en parlant de la structure du psaume, au verset 3, que le psalmiste reconnaît sa misère, sa condamnation à mort. C'est cette réalité confessée dans la prière qui le pousse à supplier Dieu. « Ô Éternel, dit-il, sauve mon âme. » Il reconnaît dans sa prière qu'il ne peut pas s'en sortir par ses propres forces, car il est simple et sans force. Verset 6. Avouant ainsi qu'il est totalement dépendant de Dieu. il a compris et confessé cette vérité que les 12 disciples, eux, ont eu tant de peine à saisir. Alors, Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, versets 2 et 3. Le psalmiste confesse dans sa prière son malheur, voire son désespoir, et révèle qu'il ne peut plus faire confiance aux hommes, verset 11, qu'ils l'ont certainement trahi et dont il ne peut que se méfier. Avant de faire appel à Dieu, le psalmiste annonce le caractère du Dieu vers qui il se tourne, avoue son propre état misérable et incapable. Ainsi, le cadre et le fondement de sa prière sont présents. Il lui reste donc maintenant, dans sa prière, à témoigner de sa délivrance et à offrir un sacrifice convenable. Relisons quelques extraits du psaume où son auteur annonce à la fois sa délivrance par l'Éternel et commence à entamer les conséquences de cette délivrance. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Ce sont les versets 6 à 8, ou les versets 10 à 12. Je crois, lors même que je dis, je suis trop malheureux. Moi qui ai dit dans mon trouble, tout homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je à l'Éternel tout le bien qu'il m'a fait? Ou encore, vers la fin du psaume, versets 16 à 18, « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout ton peuple. » La prière, notre prière à nous aussi, est un témoignage de foi. Cette foi en Dieu qui seul sauve. Et le psalmiste répète plusieurs fois sa confiance en ce Dieu rédempteur. Ce que nous faisons, notamment, chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur ensemble. L'expression de foi du verset 10 a souvent troublé les commentateurs. Je crois alors même que je dis « je suis trop malheureux ». Car c'est au lecteur, en fait, de fournir la liaison entre le « je crois » ou « j'ai cru » et « j'ai parlé ». Il n'y a pas de liaison en hébreu. Donc, c'est à nous de décider qu'est-ce qui relie les deux choses. Et les paroles exprimées ensuite par le psalmiste « je suis trop malheureux, tout homme n'est que mensonge » ne paraissent guère exprimer la foi. Paul, adoptant la traduction grecque de la Septante, n'y a trouvé aucun problème. Il déclare en 2 Corinthiens 4, 13 qu'il a cru, donc il a parlé. Il cite le passage. Nous pouvons certainement conclure que c'est bien la foi qui pousse le psalmiste à parler. Il s'accroche encore à son Dieu, alors que cette foi a été ébranlée par son grand malheur et par la trahison et l'infidélité des hommes. Ce qui nous rappelle, en passant, que Dieu ne s'attend pas à ce que notre foi soit parfaite avant d'écouter notre prière. Il connaît nos faiblesses. Il sait que nous tremblons. Il sait que nous hésitons. mais il penche son oreille tout de même pour entendre notre faible cri. Après la délivrance, maintes fois rappelée dans la prière, vient la reconnaissance. Et la question de notre psalmiste est celle que nous devons aussi nous poser. Nous, qui savons que chaque souffle de notre vie est un don gratuit de notre Dieu. Cette question, c'est comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Lui, tout comme nous, sait qu'il est totalement hors de question de pouvoir payer, rembourser en quelque sorte ses bienfaits, la délivrance de l'Éternel. Pourtant, il sait aussi qu'il ne peut pas rester là les bras croisés, comme si rien n'avait changé, comme si rien ne s'était passé. Il répond donc à sa propre question dans les termes de l'Ancienne Alliance, selon les instructions que vous trouverez, si vous voulez les chercher, dans le livre de Lévitique. « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. En présence de tout son peuple, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Versets 14, versets 17 et 18. La reconnaissance envers Dieu doit s'exprimer. Ici, selon les lois rituelles de l'Ancienne Alliance. Et elle doit s'exprimer en public, devant, en présence de tout son peuple. Pas seulement par nos prières individuelles et solitaires. Toute la communauté, nous tous, nous sommes au bénéfice des actions de grâce d'un frère, d'une sœur, délivrés par la main forte et compatissante de Dieu. Les actions de grâce ont ainsi bien leur place dans nos prières aujourd'hui, sous la nouvelle alliance. Mais elles sont loin d'être le seul moyen d'exprimer cette reconnaissance. Et même le psalmiste est conscient de cette vérité. Il ne va pas seulement invoquer l'Éternel, il va accomplir ses vœux. En confessant au verset 16, une confession très intéressante, je vous invite à relire ce verset 16, « Je suis ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. » Le psalmiste, ce psalmiste qui a écrit il y a plus de 2500 ans, reconnaît ainsi que tout comme nous, il appartient doublement à l'Éternel. D'abord par sa naissance, c'est-à-dire sa création. Ensuite, par sa délivrance de la mort, sa rédemption donc. Il n'insère pas les mots de l'apôtre Paul en Romains chapitre 12, verset 1, mais il en avait déjà compris leur leçon. Plus de 500 ans avant l'apôtre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans notre prière aujourd'hui, frères et sœurs, est-ce que notre reconnaissance va aussi loin que cette consécration totale au service de notre Dieu? Réfléchissons à cette question en concluant avec ce dernier rappel que ce psaume, comme le reste de l'Ancien Testament, doit tourner notre regard vers Jésus-Christ. Le don total de la vie nous conduit justement, directement à Jésus-Christ. Le Père même, dit notre Seigneur, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Jean 10, versets 17 et 18. Oui, ce psaume nous conduit directement à Jésus-Christ, surtout lorsque nous rappelons que notre Seigneur a chanté ce psaume juste avant d'affronter sa passion. En chantant ce verset 16, Jésus-Christ, lui, avait certainement l'image de la croix devant les yeux, dans sa tête. Car son don de lui-même aller le conduire jusque-là. Mais c'est peut-être le verset 15 qui a continué à résonner dans son cœur et dans son esprit comme il luttait dans le jardin de Gethsémané, comme il gravissait, lourdement chargé, la pente terrible le menant à Golgotha. Elle coûte aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Dans leur vie et dans leur mort, les fidèles ont du prix aux yeux de l'Éternel. Il ne risque pas de les abandonner. Jésus avait enseigné cette grande vérité à ses disciples. Ne vendant pas deux moineaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Qui est plus fidèle que Jésus-Christ lui-même? Combien donc sa mort est-elle précieuse aux yeux de l'Éternel? Le psalmiste, lui, ne savait pas encore comment Dieu allait délivrer son fidèle de la mort, mais il a exprimé sa reconnaissance totale, tout de même, par la foi. Nous le savons. Nous savons comment le Seigneur délivre. Aussi, nous ne devrions pas nous adresser à notre Dieu créateur, notre Dieu rédempteur, avec encore plus de ferveur que le psalmiste, afin de proclamer notre amour, notre délivrance, notre reconnaissance. Geneviève, si tu veux bien te lire le psaume.
Oui, j'aime l'Éternel et il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille. Je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les pièges de la mort m'avaient enveloppé. Les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi. Et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors, j'ai appelé l'Éternel au secours. Je t'en prie, Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et notre Dieu est juste. Il est plein de bonté. L'Éternel garde ceux qui sont sans détour. C'est lui qui m'a sauvé quand j'étais misérable. Retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, Éternel, tu m'as délivré de la mort. Tu as séché mes pleurs. Tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance même quand je disais « je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « tout homme est un menteur ». Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe du salut et je m'adresserai à l'Éternel lui-même. et devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ses fidèles. Ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur? Oh oui, ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as brisé mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et je m'adresserai à toi, ô Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de tes habitants, Jérusalem. Louez tous l'Éternel.
Je vous invite à prier. Seigneur, nous nous joignons tous à ce psalmiste qui te connaissait, qui t'aimait. Nous t'aimons, Seigneur. Nous nous reconnaissons que notre amour est bien en deçà du tien. Nous t'aimons comme nous lisons aussi dans le Nouveau Testament, parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, nous reconnaissons notre misère et notre incapacité, et nous reconnaissons ta délivrance que nous proclamons. Et Seigneur, ensemble nous reconnaissons, confessons devant toi, que notre vie t'appartient. Tu nous as créés, Seigneur, tu nous as rachetés en Jésus-Christ, à un prix terrible. Aujourd'hui, que notre vie te serve, te glorifie, t'honore. Conduis-nous, Seigneur, sur les voies que tu as choisies, afin que ton nom soit élevé à toujours. Loué soit l'Éternel. Amen.
Amen. Amen.